Transistor.
Un instant, il y aura l'hélium de l'actu.
Transistor. Web.
On est le 24 février, il est 16h58, vous êtes toujours sur Transistor et aujourd'hui pour le second numéro de cette série d'entretiens politiques spéciales municipales dans le 7e, arrondissement de l'ENS, de Gerland mais aussi de Saxe et de la Guillotière, nous recevons Loïc Graber, tête de liste Respiration, sans étiquette si ce n'est de dissidente à La République En Marche. Une liste au nom pour le moins intrigant. Bonjour Loïc Graber.
Bonjour.
Alors cette campagne, comment avance-t-elle maintenant qu'on est à peine 3 semaines, si je m'abuse, du premier tour ?
Effectivement, 3 semaines du premier tour, elle avance très bien cette campagne. On a une présence sur le terrain qui est assez exceptionnelle. Nous sommes une trentaine de militants mobilisés tous les jours, matin, midi, soir. En plus, il fait beau en ce moment, donc ça nous permet d'être beaucoup sur le terrain. Et puis, c'est un contact qui est très pertinent pour nous, puisque ça nous permet à la fois d'aller écouter les doléances, les attentes, les demandes des habitants du 7e, et puis surtout de proposer... ce que nous avons dans notre projet pour Lyon, avec une volonté de changement, une volonté de renouveler les pratiques, de renouveler les personnes. Donc voilà, quelques éléments que nous portons.
Alors avant de passer sur votre programme, on va revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes donc aujourd'hui encore en charge de l'urbanisme et du patrimoine dans le 7e, en plus d'être adjoint à la culture, à la mairie de Lyon. Vous avez néanmoins longtemps eu un pied dans le privé. Titulaire d'un master en valorisation du patrimoine, vous avez travaillé comme ingénieur pour un bureau d'études spécialisé en reconversion et valorisation des ensembles patrimoniaux désaffectés. Du coup, pour un arrondissement qui change aussi vite que le 7e, le parcours que vous avez eu est quand même à propos. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan de mandat qui, je le pense, s'impose avant de parler de l'avenir ?
Bien sûr, de par mon parcours, j'ai eu la chance effectivement de pouvoir être au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire avec une casquette d'adjoint à l'urbanisme, alors que mon parcours professionnel pendant une quinzaine d'années a été de travailler sur des projets de réhabilitation, de reconversion de bâtiments, de monuments désaffectés. Donc cette sensibilité patrimoniale, je l'ai assez ancrée au fond de moi depuis longtemps. En bilan de mandat, on a beaucoup construit dans le 7e arrondissement et ici sur Gerland, on le voit bien, peut-être trop construit. En tout cas, de façon sans doute pas assez dans l'air du temps par rapport à l'année 2020. C'est-à-dire que les programmes qui sont sortis de terre entre 2014 et 2020 sont des programmes qui ont été initiés dans les années 2010 en termes d'études de préfiguration, d'études de capacité. Et on s'aperçoit que les choses changent très vite et qu'un programme défini en 2010, quand il est livré, quand il aboutit en 2020, le contexte n'est plus tout à fait le même. Contexte environnemental, bien sûr, mais contexte social, contexte du vivre ensemble globalement. Et sans doute, si on avait pu avoir une capacité de réactivité plus forte, on n'aurait pas construit de la même façon. Alors après, il y a de très belles opérations qui ont été faites, y compris sur Gerland, ici, mais que pour les prochaines, il faudra sans doute travailler de façon différente. J'emploie souvent ce mot-là pour bien illustrer mon propos. Nous avons beaucoup construit la ville pendant ce mandat. Maintenant, il faut qu'on l'habite. Et pour l'habiter, il faut qu'on trouve des façons de faire vivre les gens les uns avec les autres et pas les uns à côté des autres. Et ça passe par des équipements culturels, socioculturels, du commerce, des équipements sportifs, des espaces publics qui arrivent toujours un peu a posteriori. Là, il faudrait vraiment qu'ils arrivent maintenant. Et c'est bien l'objectif et c'est bien le projet qu'on porte, c'est-à-dire de renforcer ce que nous n'avons pas pu faire ou pas suffisamment rapidement fait.
Alors, vous le dites bien, vous avez construit en partie... aux côtés d'une mairie dirigée par Gérard Collomb, et vous allez rire, mais j'ai trouvé un article de Lyon Capital datant de juillet 2017, date de votre prise de fonction à la culture, à la mairie de Lyon, qui vous qualifie de colombiste fervent. Parce que, c'est vrai, vous l'avez suivi dans votre passage du PS vers En Marche. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Vous savez, quand vous travaillez au quotidien avec quelqu'un, vous le découvrez sous un jour particulier. J'ai eu la chance effectivement d'être élu en 2014 sous l'étiquette de Gérard Collomb, et il m'a accordé sa confiance en me donnant un premier portefeuille qui était celui de la participation citoyenne. Et quand il est parti au ministère de l'Intérieur, Georges Képénékian m'a proposé de prendre la suite de Georges Képénékian à la culture, et donc j'ai pris ce portefeuille de la culture que j'occupe encore pendant quelques semaines. Gérard Collomb est un homme qui a une vision extrêmement forte, qui a eu une vision extrêmement forte de ce que devait être cette ville et cette métropole, qui a un bilan assez extraordinaire. Je pense que nul ne peut dire le contraire. La difficulté aujourd'hui, c'est qu'il a un positionnement politique dans lequel je ne me retrouve plus à titre personnel, et que pour moi il n'incarne pas l'avenir. Quand on l'entend parler, il parle beaucoup du passé, il parle beaucoup de son bilan, mais quand on l'écoute, quand on regarde les propositions qui sont faites aujourd'hui, moi j'ai du mal à voir la vision de Lyon en 2030, en 2040. J'ai du mal à voir ce que certains portent aujourd'hui en termes environnementaux, ce que certains portent aujourd'hui en termes de culture alternative, ce que certains portent aujourd'hui en termes de nouveaux équipements publics, de tiers-lieux. Bref, tous ces propos-là qui sont pour moi dans l'actualité des années 2020 et qui vont se renforcer pour aller vers 2030, j'ai du mal à l'entendre dans ce discours-là. Donc entre une ligne politique dans laquelle je ne me retrouve plus et une vision d'avenir dans laquelle je me sens trop à l'étroit, j'ai préféré prendre un chemin de traverse et rejoindre Georges Képénékian, avec qui j'ai des relations de confiance extrêmement fortes depuis longtemps.
Vous parlez probablement ici du fameux modèle lyonnais, celui qui est décrié par nombre de vos adversaires. Et puis ça fait à peu près 10 ans qu'il y a notamment le groupe de réflexion et d'action métropolitaine, le GRAM, qui réfléchit à construire de nouvelles alternatives et qui se retrouve aujourd'hui morcelé dans 3 listes différentes, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous vous sentez proche des constats qu'ils ont pu faire? Pas forcément des solutions qu'ils y apportent au moins, mais des constats.
Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'entendre, sur le prix de l'immobilier aujourd'hui, sur la place des citoyens dans la construction de la ville, sur la proportion ou la part qu'on l'accorde à la nature dans la construction de la ville. Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre de choses sur lesquelles on se rapproche. Là où on n'est plus tout à fait en phase, c'est sur les solutions qui sont proposées. Aujourd'hui, nous, on est très pragmatique parce qu'on a cette expérience de la gestion d'une collectivité. On n'est pas extrémiste. On est dans une volonté de continuer à construire et à co-construire. Quand je dis co-construire, c'est co-construire différemment. Je pense qu'on n'a pas suffisamment écouté, dialogué avec les citoyens durant ce mandat. Et il faut qu'on le fasse de façon beaucoup plus forte aujourd'hui, être dans un rapport de co-construction. On l'a vu notamment sur des projets à la Guillotière, où on n'est pas là pour imposer, on est là pour écouter, pour dialoguer, pour sortir des projets ensemble, qui permettent aux projets d'ailleurs d'être globalement acceptés par l'ensemble. Donc, nouvelle façon de construire la ville aujourd'hui, ça me semble indispensable. Et puis, sur les façons pragmatiques que nous, aujourd'hui, en termes, ne serait-ce qu'en termes de logement, on considère que la ville, elle doit continuer à construire du logement aujourd'hui. D'autres disent qu'il faut arrêter. Non, il faut continuer à construire du logement, mais il ne faut plus le construire de la même façon. Et il faut aujourd'hui travailler sur cette métropole multipolaire avec une ville-centre, un territoire central, Lyon, Villeurbanne, mais aussi d'autres pôles d'attractivité, et faire rayonner cette attractivité sur différentes communes et plus uniquement sur la ville-centre. Il faut aussi travailler sur la maîtrise des prix, maîtrise du prix du foncier, maîtrise du prix des logements, prix de sortie. Bref, on est dans des choses extrêmement pragmatiques. On n'est pas dans des incantations qui sont difficilement atteignables.
Oui, vous parlez de pragmatisme, mais dans le contexte de la construction, bon, ça me sert de transition pour embrayer sur un point central de votre profession de foi, nommé pour que chacune et chacun puisse se loger, qui mentionne explicitement, par exemple, l'îlot Mazagran, dans le quartier de la Guillotière. Et vous proposez, je cite, de repenser le projet d'aménagement en concertation. Mais est-ce que c'est assez de repenser le projet d'aménagement dans l'urgence à laquelle les résidents et les résidentes font face? Parce que, pour remettre tout ça en contexte, les prix de l'immobilier en quelques années ont monté de plus de 50%, et il y a un rythme presque hebdomadaire des expulsions qui sont désormais réalisées dans le quartier de la Guillotière. Et nombre de collectifs, dont la Guillotière n'est pas à vendre, je crois, déplorent cette politique-là et ne sont pas du tout pour faire avancer cette urbanisation galopante qui se fait à leurs dépens.
Je pense qu'il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre. Après, moi, je m'inscris en faux, en tous les cas, sur le fait que la Guillotière serait le nouveau quartier où on raserait tout, où on reconstruirait tout. Il y a des opérations qui démarrent en diffus sur certains îlots. On n'est pas du tout sur la même problématique qu'à Gerland. On est sur des opérations beaucoup plus importantes en nombre de logements. Sur la Guillotière, on a cette obligation de continuer à construire et de construire pour tous. Aujourd'hui, les opérations qu'on porte sur la Guillotière, quand je dis « on », c'est la collectivité, ville et métropole, ce sont essentiellement des opérations de logement social. Logement social pour tous, logement social étudiant. On a 3 opérations qui sont sorties ces 3 dernières années, qui sont des logements sociaux et du logement social étudiant. Donc c'est ça aujourd'hui la priorité que l'on porte. Sur le projet spécifiquement de Mazagran, C'est un projet sur lequel je travaille depuis 2014, sur lequel il y a eu des concertations, 2014-2015. Il s'avère qu'entre 2014-2015 et 2019-2020, les problématiques ne sont plus les mêmes. Les habitants qui sont concernés par ces projets ne sont plus les mêmes. Donc la force de la collectivité, c'est aussi d'être en capacité de se réinterroger, de se dire ce qui a été défini à un moment donné n'est peut-être plus d'actualité à un moment un peu plus tard. Et c'est ça qu'on porte aujourd'hui, c'est de se dire repensons le projet tel qu'il avait été imaginé à un moment T, pour voir à quoi il doit correspondre dans l'actualité d'aujourd'hui. Là où on avait dit qu'il ne fallait rien conserver, peut-être qu'il faut conserver effectivement un bâtiment ou un ou plusieurs bâtiments. Là où on avait dit qu'il ne fallait pas forcément d'activité en rez-de-chaussée, mettons de l'activité en rez-de-chaussée parce que c'est ce qui est demandé aujourd'hui, ce qui est attendu. Là, on était parti sur un projet entièrement neuf, avec une hauteur similaire. Sans doute qu'il faut retravailler ce projet-là avec des épanelages, avec des hauteurs. Et puis, sans doute qu'il faut être beaucoup plus... respectueux de l'âme de la guillotière. Ça, j'en prends l'engagement que tous les projets aujourd'hui qui sont construits sur guillotière, mais aussi sur Gerland, doivent d'abord être interrogés à l'aune d'une pertinence ou pas de démolir ce qui existe. Si effectivement il n'y a pas de pertinence de conservation, et à ce moment-là, il faut construire un projet, comme on a su le faire vers la place Mazagran d'ailleurs, sur des petits bâtiments, R+2, R+3, R+4, qui reprennent les gabarits, qui reprennent les formes et qui reconstruisent dans la dentelle une architecture conforme, compatible avec le quartier de la Guillotière et son esprit de faubourg.
Alors vous parlez de logement social, j'imagine que vous faites aussi référence ici à la loi SRU qui impose un taux de 20 ou 25% selon les communes.
25 à Lyon.
25 à Lyon, merci pour la précision, de logements sociaux. Et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup d'abus qui sont réalisés par les communes à bien des égards puisque des fois on a tendance à redéfinir le logement social pour lui faire atteindre une définition large pour que ça ne soit plus les personnes qui sont dans le besoin qui peuvent obtenir ces logements, mais des personnes aussi faisant partie de classes plus hautes. Et également, le taux est des fois tout simplement pas atteint. Comment comptez-vous vous imposer en tant qu'élu local face aux autres acteurs qui pourraient avoir tendance à vouloir que vous n'atteigniez pas ces objectifs-là, pour reformuler les choses?
C'est toujours quelque chose d'extrêmement compliqué. Je reviens dans le passé. Lorsqu'en 2014, il y a eu les dernières élections municipales, on avait enclenché un processus qui s'appelle la révision générale du plan local d'urbanisme et de l'habitat, le fameux PLUH. Ce projet était parti depuis 2012. En 2014, de nouveaux élus sont arrivés. Certains ont dit « mais il ne s'est rien passé depuis deux ans, donc on s'assoit complètement sur ce qui a été fait pendant deux ans et on repart à zéro ». La difficulté a été de perdre deux ans sur l'élaboration d'un document qui généralement prend 5 à 6 ans, tellement il est complexe. Donc il faut faire attention aux changements... aux changements forts qui peuvent être apportés pour ne pas perdre trop de temps et ne pas forcément remettre à plat systématiquement toutes les décisions. Sur le 7e arrondissement, aujourd'hui, dans les opérations de logement social, on est très en avance sur le quartier de Gerland, puisqu'on est à plus de 25%, doit être à 27-28%. On est en retard sur le quartier de la Guillotière. Donc tout l'objectif qu'on porte depuis 2014 et encore sur le prochain mandat, c'est de rééquilibrer cette tendance, de reconstruire davantage de logements sociaux et notamment du logement social étudiant sur le quartier de la Guillotière, puisqu'on a toutes les universités qui sont basées. Le ENS est ici sur Gerland, mais on a Lyon 2, Lyon 3 basés sur le quartier de la Guillotière. Et donc de rééquilibrer cette tendance avec du logement social, on va dire, pour tous, et puis du logement social étudiant. C'est notre priorité aujourd'hui.
Pour revenir sur cette dynamique de co-construction ou de construction, enfin, finalement, ça revient au même, c'est construire plus que vous prenez. Il y a beaucoup de critiques, notamment en géographie urbaine, qui vont avoir tendance à dire que construire plus est toujours plus. En fait, c'est l'application spatiale d'une certaine théorie économique, qui est la théorie du ruissellement. Plus on construit, et puis plus le genre de richesse qui sera débloqué, le genre de croissance, puisqu'elle n'est pas seulement urbaine, dans ce cas-là, elle est aussi financière, aura des retombées pour tous et toutes. Mais en pratique, on voit bien que tout ça n'est pas forcément facilité par la spéculation immobilière, par l'émergence d'appartements du type Airbnb qui font que les habitants, vous dites vous-même que vous voulez que l'on habite le 7e, que les habitants ne sont pas du tout à leur place, n'ont pas de logement pour eux, et que c'est finalement celles et ceux qui investissent dans l'urbain qui bénéficient de ce genre de construction-là.
Vous savez, quand on regarde ou quand on discute avec des promoteurs immobiliers, quand on leur demande qui sont les premiers acheteurs des programmes neufs, on peut parler de la ZAC des Girondins, pas très loin d'ici, les 50% de premiers acheteurs sur les programmes immobiliers neufs sont des habitants de Gerland. Ça prouve donc bien que quelque part, les habitants de Gerland s'y sentent plutôt pas trop mal, et parce que leur situation de famille évolue ou parce qu'ils ont un souhait particulier d'évolution ou d'achat de biens, restent sur le quartier. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec la discussion ou le propos qui consiste à dire que lorsqu'on construit des opérations neuves, ce n'est que pour faire la spéculation immobilière ou ce ne sont que des investisseurs. Bien sûr, il y a des investisseurs, mais il y a aussi beaucoup de gens qui achètent pour pouvoir habiter, continuer à habiter sur le 7e arrondissement et ici en particulier. On a un réel besoin, on est sur un territoire qui est extrêmement attractif aujourd'hui. 30 000 nouveaux logements à construire d'ici 2030. 30 000 nouveaux logements d'ici 2030. Ce n'est pas un chiffre qui tombe du ciel. C'est une application aujourd'hui de ce que l'on constate au quotidien. Donc on pourrait effectivement dire, comme le font certains, on arrête de construire. Bah, la conséquence, elle va être immédiate. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un prix de l'immobilier qui est déjà très élevé. Si demain, il n'y a plus rien à acheter sur le territoire de Lyon, les prix, ils vont exploser. Exploser. C'est bien parce qu'à un moment donné, on essaye de régulariser l'offre et la demande, enfin de réguler, pardon, l'offre et la demande, qu'on essaye de tenir une stabilité des prix. Aujourd'hui, on ne construit pas assez, il n'y a pas assez de biens sur le marché, ce qui explique que les prix soient extrêmement forts. Donc toute la difficulté pour nous, c'est d'arriver à proposer une offre mixte, c'est-à-dire vraiment variée en termes de produits. Et là, par exemple, on va sortir une opération sur Gerland avec des prix maîtrisés à 3 600 € le mètre carré. 3 600 € le mètre carré, alors que vous avez des prix à pratiquement 10 000 € le mètre carré de l'autre côté du Rhône. Et on est aussi capable de sortir des programmes de logements sociaux, de logements intermédiaires. Donc oui, les prix augmentent, c'est vrai. Mais nous, nous avons le souhait de continuer à construire, de construire mieux, de construire différemment pour justement avoir cette capacité à avoir des prix qui restent stables.
Après, on relève aussi dans votre programme que vous souhaitez mettre en place des achats municipaux fonciers. Comment vous réussissez à intégrer ce genre de... D'ailleurs, est-ce que vous pourriez un peu décrire comment ça se passe en pratique, l'achat municipal foncier, pour justifier le fait que ça s'intègre dans cette dynamique-là? Parce que l'achat municipal foncier, c'est faire revenir du patrimoine dans le portefeuille d'une collectivité locale. Et ça peut être des fois déployé comme une mesure qui sert à contrer ce genre d'investissement-là, justement.
En fait, c'est toujours pareil, c'est cette notion d'équilibre. Aujourd'hui, je vous prends un exemple, parce que je l'ai beaucoup vécu en tant qu'adjoint à l'urbanisme pendant 6 ans. Vous avez un propriétaire foncier, un propriétaire d'un bien, d'un terrain, qui va solliciter tous les promoteurs de la place de Lyon pour pouvoir vendre son bien. Et c'est son droit, hein, le droit à la propriété foncière est un droit immuable de notre droit. Cette sollicitation de tous les promoteurs va faire que finalement les promoteurs vont renchérir les uns par rapport aux autres. Donc au final, vous partez d'un prix donné, les promoteurs vont renchérir et vous partez avec un prix de sortie, c'est le prix de vente auquel va se faire le terrain, qui est 5 fois, 10 fois, 15 fois, parfois jusqu'à 50 fois plus cher que la valeur initiale. Et c'est bien contre cette inflation qu'on souhaite lutter aujourd'hui. C'est-à-dire de pouvoir être en capacité de dire à celui qui va vendre, votre terrain, il vaut tant parce que vous pouvez construire tant dessus et que le prix de sortie de vos logements, ce sera tant. Donc ça, moi, je me suis battu pendant 6 ans avec des propriétaires de terrain pour leur faire comprendre que ce n'est pas parce qu'un promoteur leur donnait un prix extrêmement attractif que derrière, il allait obtenir son permis de construire. Parce que généralement, quand le prix est très élevé, bah là, c'est la qualité des logements qui descend, c'est le regard architectural qui descend, c'est l'ensemble des éléments, parce qu'il y a quand même un prix de sortie, hein, à un moment donné, qu'il faut bien respecter. Et donc, notre point de vue, c'est de dire qu'il faut avoir cette maîtrise du foncier dès le départ. Alors après, effectivement, c'est soit la métropole, soit la ville qui peuvent acquérir du foncier, suivant leur domaine de compétences et suivant les préoccupations. Moi, j'ai 2-3 exemples de fonciers en tête qui aujourd'hui, avec des propriétaires qui ne veulent pas vendre parce qu'ils estiment attendre, parce qu'ils feront toujours une plus grosse plus-value. Si demain, la collectivité dit « nous, on préempte » ou « nous, on achète » pour faire du logement social ou du logement social étudiant, comme je parlais tout à l'heure, et bien là, pour le coup, les prix seront stabilisés et on pourra lancer des opérations.
Pour finir sur ce problème-là qui est vraiment très très vaste dans le 7e, le problème du logement, on a l'impression en tant que qu'habitant et habitante du 7e, puisqu'il y a une grande résidence à l'intérieur de l'ENS, que l'urbanisation de Gerland, qui est bon, une ancienne zone portuaire, mais aussi une ancienne zone industrielle, a été plus que galopante ces dernières années, et que finalement, la municipalité ou même les acteurs de l'urbanisme local n'ont pas du tout eu le temps de penser à quoi ça ressemblerait un quartier où il y a des nouveaux propriétaires, où il y a des nouveaux habitants, et on a l'impression qu'on est dans un quartier en même temps où il y a beaucoup de gens qui emménagent, mais en même temps qui est fantôme. On se dit que toutes ces choses-là que, dont vous parlez dans votre bilan, mais aussi dans votre programme, ce sera finalement assez dur à mettre en place au vu de la situation telle qu'elle est aujourd'hui.
Alors, il existe un document cadre qui s'appelle le plan guide de Gerland, qui fixe les orientations d'aménagement pour toutes les années futures, qui a été défini par Alain Raymond et Alain Marguerite, qui sont un paysagiste et un architecte, et qui explique parcelle par parcelle les projets d'aménagement, enfin les capacités d'aménagement. Et surtout, quand on connaît Alain Marguerite, c'est une capacité d'aménagement extrêmement verte. C'est-à-dire avec cette volonté que le parc Gerland au sud rayonne jusqu'au nord du quartier de Gerland à travers un certain nombre d'allées extrêmement paysagères, extrêmement végétalisées. Donc ce document cadre, il existe aujourd'hui. Donc quand un nouveau projet d'aménagement arrive, on a un certain nombre d'instances qui permettent d'observer, d'étudier, d'analyser et de modifier les projets. Et donc les architectes conseils sont présents et on cadre ces projets-là suivant ce qui est défini dans ce plan guide. Donc ça, c'est un document qui existe. Après, la difficulté qui est la nôtre, eh bien, c'est que même si vous avez un cadre qui est donné, vous avez aussi des interactions ou des choses un peu contradictoires. Et parfois, il faut faire face à la fois à des objectifs de préservation patrimoniale, à des objectifs de préservation environnementale, à des objectifs de promoteurs qui, à un moment donné, achètent un bien et donc achètent aussi un droit à construire. Les choses sont extrêmement réglementées. Et donc, c'est un ensemble de compromis qu'il faut faire. Alors, parfois, le compromis n'est pas forcément très satisfaisant. Parfois, il peut l'être davantage. Moi, je vous prends deux exemples, et puis je m'arrêterai là sur ce sujet, mais deux exemples qui me tiennent à cœur, c'est le classement au sein du document d'urbanisme, qui donc s'appelle le plan local d'urbanisme et d'habitat, le PLUH, d'un certain nombre d'éléments patrimoniaux aujourd'hui sur Gerland, qui sont désormais protégés, notamment sur la zone Nexence, notamment la rotonde SNCF, d'autres bâtiments sur le nord Gerland, qui sont des bâtiments avec une âme industrielle, ça me rappelle ma vocation professionnelle précédente, et puis d'autres projets qui ont permis, lorsque le promoteur venait nous voir en disant bah voilà, moi je prévois de démolir ce bâtiment et de reconstruire quelque chose de neuf à la place, on lui a imposé d'étudier si le bâtiment tel qu'il était n'était pas conservable, valorisable, réhabilitable pour en faire autre chose. Et donc avec le promoteur, on a pu travailler, un exemple dans le nord de Gerland, rue Lortet, où le promoteur a dit bah finalement si je vais conserver le bâtiment, je vais le réhabiliter, je vais pouvoir le transformer, faire des logements, et puis à côté bah, j'ai un petit terrain, je vais pouvoir construire quelque chose de neuf. Donc on arrive à garder maintenant et de façon beaucoup plus forte cette âme spécifique du quartier de Gerland en ayant un travail et une attention plus forte avec les promoteurs.
Votre programme propose de déployer plus amplement, à l'échelle de Lyon, des dispositifs de vidéosurveillance. Et c'est d'autant plus intéressant que vous proposez ça parce qu'on fait également face à ce genre de débat à l'intérieur même de l'ENS et que dans le même temps, des grandes enquêtes réalisées dans la région par le média Médiacité sur le sujet tirent comme conclusion que c'est malheureusement pas par son impact sur la délinquance et sur la criminalité que cette technologie s'est démarquée, mais plutôt par la charge symbolique forte qu'elle véhicule, sans parler des coûts locaux qui sont assez substantiels pour l'économie. Est-ce que c'est ce genre de signe que vous voulez donner en tant qu'élu local ?
Aujourd'hui, je pense que l'efficacité de la vidéoprotection, elle n'est plus à prouver. Moi, quand je vois que des communes comme Grenoble, qui sont pourtant gérées par une majorité écologiste aujourd'hui, en font la promotion après avoir expliqué que c'était une très mauvaise idée, en font aujourd'hui en fin de mandat la promotion, je me dis que c'est quand même quelque chose qui fonctionne. Mais au-delà de ça, ça c'est plutôt pour l'anecdote, au-delà de ça, les systèmes de vidéoprotection permettent d'avoir une vigilance sur l'espace public à des moments de rassemblement, à des moments lambda, permettent d'avoir des images lorsqu'il faut procéder à des interpellations, à des verbalisations. Parce que si on n'a pas ces images-là, c'est quand même un peu plus compliqué en termes de preuves. Permettent d'avoir un regard. Alors, ce qui est vrai, c'est que ce n'est pas l'alpha et l'oméga. La vidéoprotection, n'a jamais remplacé la présence policière, n'a jamais remplacé la présence de médiateurs. Et aujourd'hui, dans notre programme, on est bien sur un triptyque entre la médiation, la prévention et la répression pouvant passer par la vidéo-verbalisation et la vidéoprotection, mais en tous les cas, ce n'est pas l'un à la place des autres. C'est-à-dire que les communes ou les collectivités qui ont fait le choix de mettre beaucoup de vidéoprotection et de supprimer des postes de policiers sont à mon avis dans l'erreur. De la même façon qu'il ne faut pas non plus supprimer les places et les rôles de médiateurs, puisque c'est eux qui sont d'abord au contact des difficultés ou des populations qui peuvent soulever des problèmes. Donc c'est un triptyque, un ensemble. Et puis je dirais que nous, on porte aussi un autre projet qui est celui des caméras mobiles, puisqu'effectivement, vous l'avez bien dit, c'est pas parce qu'il y a une caméra à un endroit et à un moment donné que tout est réglé. Par contre, le principe de la caméra mobile, c'est d'un moment donné, quand on identifie un problème à un endroit T, on peut mettre une caméra mobile qui va rester pendant un mois, pendant deux mois, et puis ensuite on va enlever parce que le problème se sera délocalisé et qu'on va pouvoir replacer ailleurs. Ça nous coûte beaucoup moins cher en investissement, parce qu'on n'a pas de câblage, de réseau installé, et ça nous permet de suivre les problématiques suivant leur déplacement.
Bon, même chose pour la police municipale, vous voulez doubler vos effectifs de nuit et augmenter de 10% vos effectifs en général pour le 7e arrondissement. Qu'avez-vous à répondre à ceux qui disent que c'est tout simplement un signe du développement d'un état de surveillance, un état policier? C'est un peu inquiétant d'entendre que vous avez la capacité, vous aurez la capacité si vous êtes élu de mettre en place des caméras n'importe où dans la ville.
Alors c'est pas n'importe où, c'est toujours extrêmement réglementé, rassurez-vous. Il y a un comité d'éthique qui surveille l'utilisation de chacune des images qui sont prises, donc il n'y a pas de risque là-dessus, les choses se font de façon extrêmement réglementée. Après aujourd'hui, moi j'entends votre remarque, mais je n'ai pas vu une seule liste, y compris à la gauche de la gauche, ne pas proposer une augmentation des effectifs de police municipale. Aujourd'hui, on est dans une situation à Lyon où on est en sous-effectif chronique par rapport à l'augmentation de la population et donc à l'augmentation des faits de délinquance. On a une vraie problématique qui est la tranquillité nocturne dans cette ville, et ici, dans le 7e arrondissement, on est bien placé entre la place Jean Massé, la place Gabriel Péri, la place Mazagran et même ici sur Gerland, sur certains secteurs, pour voir qu'on a besoin d'une présence policière, y compris la nuit. Quand vous essayez de dormir à 2h du matin et que vous avez un rodéo nocturne et que vous appelez le 17 et que personne ne répond, ou que lorsqu'on vous répond, on ne peut pas vous envoyer d'équipage parce qu'il n'y a pas d'effectif disponible, c'est bien qu'il y a un problème. Donc aujourd'hui, notre réponse est de dire qu'il faut davantage de présence policière, notamment nocturne. C'est pas une présence policière forcément répressive, ça peut être une présence policière aussi visible et qui fait de la prévention, mais c'est une présence qui aujourd'hui fait défaut dans tous les cas.
Est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression que c'est une façon de pallier un problème qui est beaucoup plus large que cela? Est-ce que vous ne pensez pas que alors ça c'est une question d'ordre général évidemment, la question de la répression et la question de la surveillance, est-ce que ce ne seraient pas des problèmes qui pourraient être compensés aussi par l'éducation, la promotion de la culture, ce genre de choses-là? Et c'est vraiment une histoire de signes, hein. J'ai l'impression que quand même ce que les études que j'ai citées ont vraiment réussi à montrer, c'était que les communes qui n'enregistraient pas forcément d'augmentation, de diminution de la délinquance, continuaient à mettre en place de la vidéosurveillance parce qu'elles voulaient donner un signe panoptique, le signe que la mairie pouvait voir absolument tout ce qui se passe. Est-ce que vraiment avoir un œil partout, c'est votre but ici?
Non, c'est pas le but. Je pense que ça n'a jamais été affiché comme ça et ça ne le sera pas. Mais je ne veux pas non plus que par mes propos, vous pensiez qu'on se désintéresse de l'éducation ou de la culture. Aujourd'hui, dans notre projet, l'éducation, c'est le premier point, c'est le point de départ, c'est par là que tout passe, depuis la petite enfance jusqu'à l'adolescence. En plus, on a la chance de travailler ville et métropole ensemble, donc des crèches au collège en allant jusqu'au lycée et à l'enseignement supérieur. On a cette vraie volonté d'avoir à la fois des équipements et des projets éducatifs de territoire extrêmement développés. Et on met les moyens dessus de façon suffisante. Pareil pour la culture. La culture aujourd'hui, c'est le deuxième budget de la ville. On porte aussi un projet extrêmement ambitieux qui garde ce niveau d'ambition, qui se réinvente aussi parce qu'il faut réinventer un certain nombre de choses. Mais on fait bien de l'éducation et de la culture les deux piliers de notre projet, de notre programme, parce qu'on considère que d'un côté, il faut pouvoir, dès le plus jeune âge, donner les bons réflexes du vivre ensemble, les façons d'être, de se respecter, de travailler, de faire les choses ensemble, de collaborer. Et puis par la culture, une façon de vivre des émotions ensemble, de participer, de créer du lien entre les uns et les autres. Sans doute que dans ces quartiers neufs, comme on en a ici sur Gerland, il manque ce lien, et c'est aussi pour ça que dans notre projet pour le 7e, on porte cette volonté d'habiter la ville aujourd'hui avec des équipements socioculturels, avec des fêtes de quartier, avec une présence beaucoup plus forte en proximité, avec des lieux de rassemblement et des équipements sportifs par exemple, pour justement créer ces occasions de rencontre, et que ces occasions de rencontre soient des occasions de rencontre positives et pas forcément négatives comme on peut le voir aujourd'hui.
Alors justement, vous parlez de collaboration entre la métropole et la mairie. Or, on se rend compte que pour ces élections, les grandes têtes du contexte politique local lyonnais se retrouvent à candidater aux élections métropolitaines et non municipales. Et ça pose vraiment une question sérieuse qui est celle de la démocratie locale, du fait qu'on ne puisse qu'arriver à des mesures... On a la sensation en tant qu'électeur que ça va tout va se jouer au niveau de la métropole et non du contexte local où pourtant on a la sensation d'être bien plus au contact de nos élus. Qu'avez-vous à répondre à ces inquiétudes-là ?
Moi, je suis pas d'accord avec vous. Je pense que cette élection, elle a une valeur, une vertu extraordinaire qui consiste à dire que pour la première fois, enfin, c'est déjà le cas depuis 2017, mais en tous les cas, ça sera cette fois-ci acté par les urnes, le président de la métropole ne peut plus être le maire de la ville-centre. Ça, ce n'est plus possible. Jusqu'à présent, on avait un maire de la ville-centre qui était président de la métropole. Finalement, une seule et même tête qui gérait l'ensemble des exécutifs des deux collectivités. Demain, on aura un maire ou une maire pour la ville-centre et on aura un ou une présidente pour la métropole. Ça veut donc dire que la ville-centre va se réaffirmer en tant que telle. Elle va réexister en tant que telle. Et c'est bien le projet qu'on porte, c'est de dire que la ville-centre, elle a un poids à part entière, un poids politique. Elle a aussi des délégations extrêmement fortes. Je parlais tout à l'heure de la petite enfance, de l'enfance, de la culture, qui sont des délégations propres à la ville, qui ne sont pas portées par la métropole et pour lesquelles on est extrêmement ambitieux. Donc aujourd'hui, c'est un vrai atout qui ait des ambitions fortes à l'échelle métropolitaine, parce qu'effectivement, des budgets d'investissement importants, compte tenu des compétences de la métropole, c'est une réalité. Dire qu'aujourd'hui il n'y a plus rien à faire à la ville de Lyon, ce n'est absolument pas vrai. Il y a une vraie responsabilité, de vrais projets à réinventer. Il y a 8500 agents qui travaillent à la ville de Lyon et qui permettent de faire tourner cette collectivité tous les jours dans l'ensemble des services. Il y a un peu plus de 9000 agents à la métropole, donc c'est dire qu'elles sont quand même très proches, ces deux collectivités. L'objectif pour nous, c'est qu'elles fonctionnent bien ensemble, en bonne interaction, en bonne intelligence, avec des hommes et des femmes qui sont capables de travailler ensemble, comme Georges Képénékian et David Kimmelfeld, par exemple.
Alors, il y a quelques jours, à Paris, pour vous donner une petite anecdote, il y a un candidat assez marginal, Gaspard Kanzer, qui faisait quelque chose comme 1% ou 2% des intentions de vote, qui s'est rallié à la candidature d'Agnès Buzyn, alors qu'il s'était, il y a maintenant un an ou deux ans de ça, désolidarisé de l'REM en disant que c'était justement un programme qui était peut-être... Dont la vision n'était pas la sienne. Bref, c'était aussi un dissident LREM. On est nombreux à penser que dans les grandes villes françaises, les candidats qui se considèrent comme dissidents LREM se rejoindront les candidats du gouvernement au second tour. Et puis c'est d'autant plus important que vous êtes en ce moment troisième en termes d'intention de vote pour les sondages derrière les Verts et LREM. Et la question d'avec qui vous allez gouverner est vraiment importante.
C'est toute notre volonté, on l'a porté depuis le départ et on le portera jusqu'au bout, d'être sans étiquette, d'être une candidature indépendante et d'être une candidature de rassemblement de personnes plutôt de centre et de gauche, on va dire de centre-gauche, d'écologistes, de centristes aussi, parce qu'on considère que la vie politique, et en particulier à Lyon, elle ne se fait pas sur une étiquette spécifique, elle se fait dans une capacité de mettre ensemble des gens qui sont nouveaux, en politique, qui n'ont jamais exercé de responsabilité, et d'autres qui ont un peu plus d'expérience. Donc ça, c'est ce que nous portons, nous. Ce qui se passera au soir du second tour, du premier tour, pardon, commencez par le premier, au soir du premier tour, je ne peux absolument pas vous le dire. Nous, on est fidèles à des valeurs, on est fidèles à un projet, on est fidèles à une conviction, à une méthode de gouvernance. On ira ou on s'associera avec celles et ceux vers lesquels on est en capacité d'avoir ce dialogue. Si ce dialogue, c'est plutôt avec les Verts parce qu'ils sont en tête demain de la ville de Lyon, eh ben, je ne sais pas, on verra à ce moment-là ce qui se passera. Mais aujourd'hui, on n'est pas, nous, à nous dire on rejoindra un tel ou un tel, on va jusqu'au bout de notre candidature et on verra ce qui se passera au soir du premier tour, avec cette volonté de construire un programme efficace pour les Lyonnais, de construire un mode de gouvernance efficace pour les Lyonnais. C'est ce à quoi nous travaillons déjà depuis plusieurs mois et pour lequel on va continuer à travailler jusqu'au 15 mars.
Merci Loïc Graber.
Merci à vous.